Bonsoir à tous, bienvenue à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Je me présente, je m'appelle Charles Boisvert et on est ensemble pour parler de sport jusqu'à 22h. Avant de vous dire un peu le planning de l'émission, je vais présenter les collaborateurs, mais le seul qui est arrivé pour l'instant avec moi, Vincent Michaud. Salut Vincent, en forme?
Salut, en forme, toi, Charles?
Hey, attends, je vais juste ouvrir ton micro. Et voilà. Oui, ça va très bien. Bon, et voilà, notre deuxième collaborateur arrive à l'instant en studio, notre cher Félix Lajoie. Donc, Félix, ton micro est allumé, ça va bien?
Ah, ça va, toi, Charles?
Oui. Donc, voilà, nos deux collaborateurs sont arrivés et on est prêts pour notre émission de ce soir. Donc, notre émission de ce soir, comment on s'enligne pour ça? Dans le fond, la première moitié de l'émission, là, on va être avec Olivier Morin-Larocque, qui est un spécialiste en athlète et en mobilité. Donc, tout ce qui est préparation, tout ce qui est entraînement. C'est un gars qui se connaît beaucoup là-dedans et qui a un historique très intéressant également en tant que joueur de baseball. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va parler plus d'actualité sportive. Donc, je me suis préparé quelques sujets. Là, on va voir de ce qu'on a le temps de parler. On risque de parler de LPHF, de NFL et également du Canadien de Montréal, si on a le temps. Donc, sans plus attendre, on va saluer notre invité, Olivier, qui est à ma gauche en studio. Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va super bien. Écoute, je te remercie beaucoup d'être parmi nous là, en studio ce soir. D'abord, pour les auditeurs qui te connaissent un peu moins, là, décris-toi, t'es qui en tant que personne et qu'est-ce que tu fais de tes jours?
Dans le fond, moi, je suis un entraîneur personnel. Je peux faire plusieurs choses. Je peux être en mobilité. Je travaille surtout avec les athlètes, mais je peux vraiment m'occuper de remise en forme, perte de poids, blessures surtout. J'adore aussi. Je fais vraiment beaucoup, là.
Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Qu'est-ce que, pendant tes études, tu t'es dit, moi, ça me tente de faire ça pour devenir ça un jour? Qu'est-ce qui te passionne là-dedans?
Ben, dans le fond, moi, ça a vraiment commencé à cause du baseball. Okay. J'ai eu beaucoup de blessures étant plus jeune. Puis j'ai fait beaucoup de réhabilitation, toujours eu des spécialistes différents. Fait que pour moi, ça a comme toujours plus cliqué de me dire, OK, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça va me donner à moi? Fait que là, je voulais étudier là-dedans pour comprendre moi-même aussi. Fait que c'est vraiment comme ça que ça a commencé, puis je suis en amour avec ça, là.
Excellent. Puis, mettons, as-tu un objectif de carrière que t'as envie d'atteindre un jour? Mettons, entraîneur personnel, c'est quelque chose, mais est-ce que, je sais pas moi, il existe des firmes d'entraîneurs ou des gyms auxquels tu voudrais t'associer ou, par exemple, un nombre X d'abonnés que t'aimerais atteindre sur Instagram, par exemple, comme objectif dans ta carrière?
Ben, c'est sûr, toujours le plus haut possible. Peu importe réseaux sociaux, dans les gyms. Présentement, pour si vous le saviez pas, je suis au gym Le Chalet, beaucoup.
Okay.
Je vais travailler à l'extérieur aussi, avec des sports-études aussi, hockey dans plusieurs écoles. Donc, je fais un peu de tout, mais vraiment le plus haut possible pour tout. C'est toujours, je suis jamais satisfait de ce que j'ai en ce moment. Je vais aller chercher plus haut, puis c'est pas mal ça, là.
OK, mais on parle là, du fait que bon, t'es bon pour prévenir les blessures, aider justement à des athlètes à empêcher justement de se blesser. Là, ben justement, on t'a amené ici pour parler un peu là, de prévention de blessures. C'est quoi les trucs que t'aurais à donner aux athlètes, par exemple, qui sont à l'écoute à la maison?
La chose la plus importante, puis qui est très souvent oubliée, c'est la mobilité.
OK.
L'entraînement, c'est pas juste de faire de la musculation. Souvent, les personnes, ils vont en rire et c'est comme, ah, regarde, je suis pas capable de toucher mes pieds quand je fais ça ou peu importe. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment commun, puis on en rit parce que c'est vrai, souvent le monde va rire de la flexibilité. Mais c'est quelque chose qui est ultra important, ça change des vies. En ce moment, c'est vraiment ce que je fais avec mes athlètes, puis souvent, ils vont dire, Colin, Oli, je me sens vraiment mieux, puis j'aime vraiment ça, je me sens plus fort aussi quand je fais mes lifts. Fait que c'est vraiment, là, je vous dirais, la mobilité, c'est une partie qui est oubliée puis qui est très importante, là.
Mais justement, je le vois dans les contenus que tu postes, notamment sur Instagram. Tu sais, l'influenceur fitness moyen, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se filmer en train de faire ses séries, puis il va dire, bon, ben les meilleurs workouts pour les triceps, les biceps, le chest, ça va être ça. Moi, ma routine, toi, ce que tu fais, c'est justement, tu donnes des trucs pour peut-être mieux s'échauffer. Pourquoi t'es allé dans cette direction-là un peu?
Parce que justement, c'est pas quelque chose qui est populaire présentement. Ouais. Justement, c'est beaucoup l'entraînement. Moi, je vais faire bicep, tricep, ouais. Le gym bro qui est vraiment ouais. Populaire en ce moment. Mais je voulais m'embarquer là-dedans parce que on n'en voit pas. On a personne qui s'occupe de prévention, comment bien faire un mouvement, des petits muscles à travailler. Parce que oui, c'est important de travailler nos gros muscles, Mais c'est vraiment important de travailler les petits muscles, puis les range of motion, les articulations, c'est super important, là.
Puis justement, est-ce que t'as des retours de ta clientèle? Est-ce que, genre, tu te démarques quand même d'une certaine façon? Est-ce que tu la vois, justement, cette avenue que t'as pris-là, que les autres n'ont pas pris?
Oui, parce que justement, ça va arriver que je vais avoir d'autres entraîneurs ou d'autres personnes qui me disent « J'ai un entraîneur, mais il se spécialise pas là-dedans. Est-ce que tu pourrais m'aider? »
C'est ça.
Donc, c'est ça. Exactement. En ce moment, si je suis dans un milieu que c'est pas très populaire, le monde a peur de s'y lancer un peu, ils sont pas trop sûrs. Donc, moi, oui, en ce moment, je peux le voir, là.
Okay. Par exemple, que je suis un athlète qui veut faire, qui se prépare à sa compétition. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai un tournoi d'hockey en fin de semaine. Je vais avoir 4 matchs en 3 jours, 5 matchs en 3 jours. C'est quoi tes trucs pour bien se préparer?
La nutrition,
okay.
Ultra important. C'est sûr qu'on parle de l'entraînement, on parle de mobilité, on parle de flexibilité, mais si on mange pas bien, on va pas bien performer.
Qu'est-ce qu'on doit manger?
Écoutez,
du poisson,
ça, ouais,
des pâtes.
Poisson, pâtes, c'est bon. Pâtes, faut faire attention. Des fois, c'est pris trop tôt, pris trop tard, trop grosse portion.
C'est un mythe. Parce que, par exemple, chaque fois que, tu sais, je vais prendre un exemple de chez moi, à ma maison, là, mes soeurs, des fois, ils partent une journée en tournoi de volleyball. Fait que la veille, ma mère fait tout le temps des pâtes.
Mm-hmm.
C'est une bonne idée, ça?
Moi, je suis vraiment pas un spécialiste en nutrition.
OK.
J'ai des petits trucs.
Ouais.
Je sais qu'est-ce qui marche bien pour moi. Je sais qu'est-ce qui marche bien avec mes clients. Il faut que tu essayes. C'est le okay. meilleur truc que je vais donner aussi. Moi, personnellement, les pâtes n'ont jamais bien marché pour moi.
Ah ouais?
Je sais que c'est peut-être un bon truc. Souvent, des nutritionnistes vont en parler. Mais personnellement, pour moi, ça fonctionnait pas. Donc, j'ai essayé d'autres choses, des repas un peu plus légers, un peu plus protéinés, un peu plus de glucides. Vraiment essayer pour voir qu'est-ce qui marchait bien pour moi avant mes performances. Puis, je pense que c'est un sujet qu'il faut que tu parles avec la personne aussi avant. Écoute, est-ce que tu t'es bien senti avant cette fin de semaine-là?
Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu as mangé? Non, je me suis pas bien senti. Parfait, on va changer. Si la personne s'est bien sentie, parfait, on le garde. Fait que c'est vraiment, je pense, la nutrition aussi, c'est un sujet qui est vraiment varié. On va avoir quelqu'un qui va dire « mange la viande rouge
mm-hmm. »,
puis on va avoir un autre spécialiste qui connaît vraiment bien ces choses, des doctorats super gros, grosses études, puis qui va dire « non, tu peux pas faire ça ». Fait que c'est un sujet qui est vraiment personnel, à mon avis, aussi, là.
Okay. Et ensuite, après la nutrition, c'est quoi les prochaines étapes pour la bonne préparation pour, mettons, une fin de semaine de sport comme ça?
Le sommeil.
Mm-hmm.
Le sommeil, très important aussi. Moi, en tant qu'athlète, avant mes performances que je savais que je devais lancer, c'était un petit peu plus difficile pour moi de dormir la veille parce que j'avais l'adrénaline,
ouais,
je savais
stress,
que c'était
ouais.
mon time to go. Mais les autres journées avant sont aussi importantes. Fait que si tu te dis « Ah, je joue demain, c'est pas grave, si jeudi, je me couche tard », c'est pas vrai, sont vraiment toutes importantes. Fait que le sommeil, je vous dirais, c'est pas mal le deuxième, là.
Puis j'imagine la gestion du stress devient importante aussi quand t'es un lanceur. Tu sais, contrairement aux joueurs de position au baseball, tu joues pas à chaque jour. Si le stress s'accumule avant quelques jours avant ton départ puis que le sommeil est moindre, ça affecte tes performances assez rapidement.
Ouais, puis ça, il faut que tu passes contre. Fait que tu sais, c'est des affaires que tu le sais. Tu dis, écoute, j'ai pas bien dormi ou peu importe, mais faut que tu, justement, tu maximises les autres choses. Ça, c'est dans mon cas à moi aussi. Il y a du monde que ça les affecte pas. Moi, personnellement, le sommeil m'affectait. Fait que je m'assurais d'avoir une bonne nutrition, de bien m'entraîner, faire ma mobilité, faire les autres choses, tout autour, les petites choses qui sont importantes, si tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Dans mon cas, je me disais pas, oh non, je lance, j'ai pas dormi. J'ai pas le choix de passer au travers puis de me dire, écoute, j'ai été vraiment
d'aller
bon
lancer
ça,
pareil.
Ça, je vais aller lancer puis ouais. je vais être le meilleur. On n'a pas le choix, on peut pas être parfait partout.
Il faut se concentrer sur le positif aussi, comme
c'est
tu
ça,
dis,
exactement.
Les autres aspects.
Si tu fais juste te baser sur le négatif, c'est rare que le outcome va être positif.
Tu parlais justement de bien se préparer. Ben de, par exemple, tu disais, toi, tu as besoin de bon sommeil, sinon, ben, tu sais que ça va moins bien aller, tu sais que toi, tu peux pas manger de pâtes. Comment tu fais pour le savoir? Si, par exemple, on a des athlètes à l'écoute ce soir,
mm-hmm.
comment ils font pour avoir leur routine à eux qu'ils savent que, genre, ça va bien aller après?
Pour les jeunes,
ouais.
En ce moment, je travaille beaucoup aussi avec les jeunes hockey, baseball. C'est du monde qui n'a pas le choix d'être en ultra forme.
Ouais.
La seule chose qui est difficile à leur âge, c'est les parents.
OK.
À l'âge que nous, on a, c'est facile de faire la préparation. On sait, justement, moi, j'ai mangé ça la semaine passée. Je sais que je vais continuer à manger ça parce que ça a bien été. Vice-versa, peut-être que ça n'a pas bien été, tu ne changes de repas. Les jeunes ont les parents. Les parents ne vont pas toujours faire le repas que tu veux avoir sur la table. Fait que ça, c'est quelque chose, c'est les proportions. Okay? Souvent, on va avoir un trop gros repas ou un trop petit repas. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder aussi avec le jeune. Ça, c'est quelque chose que les nutritionnistes, ils peuvent s'en occuper aussi, avoir des bonnes communications avec les jeunes. Ça dépend énormément de si les parents ils sont willing de faire toutes les démarches. Écoute, on sait qu'on a fait ça, on sait qu'on a fait ça, donc on va garder ça comme ça.
Mm-hmm. Ben, dans le fond, que les parents doivent embarquer dans l'espèce de routine exact. Qu'on essaie d'installer avec le jeune. Là.
Si on veut être à un niveau, il faut tout faire de notre côté pour percer. La nutrition, comme que j'ai dit, c'est l'affaire numéro un. Donc, si les parents sont prêts à faire ça, c'est un gros step pour aller chercher un plus haut niveau.
Tu parlais là, que tu travailles en collaboration avec Jim Le Chalet, avec certaines équipes sportives. Là, concrètement, c'est quoi les services que tu peux offrir pour, par exemple, je sais pas moi, on a un entraîneur d'hockey à l'écoute qui souhaite préparer ses jeunes et qu'ils soient prêts pour la fin de la saison, ou par exemple, quelqu'un qui veut débuter au gym, qui est complètement perdu sur qu'est-ce qu'il doit faire, quel genre de service tu peux offrir?
Donc là, on parlait pour au niveau ou quelqu'un qui commençait, excuse-moi?
Tout mélangé, en fait, parce que dans le sens, si par exemple, toi, tu te spécialises vraiment sur la préparation d'athlètes de haut niveau, mais que, je sais pas moi, en contrepartie, mettons, tu serais plus à l'aise de travailler avec quelqu'un qui est plus avancé au gym, ben peut-être que dans le fond, dans ce que tu te spécialises, ce que j'essaie de dire.
Mm-hmm. Ben, personnellement, c'est sûr que si j'ai le choix entre les deux, je vais y aller avec quelqu'un de plus haut niveau.
Mm-hmm.
Parce que moi, je pense que les connaissances que j'ai, c'est sûr que personne n'a les connaissances au maximum.
Ouais.
Mais les connaissances que j'ai, j'aime donner et faire apprendre quelqu'un qui est déjà au niveau.
OK.
Je pense qu'une personne qui est un petit peu moins familier dans le monde du sport, quelqu'un qui veut juste commencer à s'entraîner, il y a plusieurs personnes qui vont avoir une base.
Il y a d'autres ressources, dans le fond. Dans le fond, toi, avec ta formation, tu te spécialises plus vers le haut niveau.
Exact.
Puis que c'est ça.
Puis t'es déjà pas mal dans le milieu. Là, comme l'été dernier, si je me trompe pas, t'as entraîné des joueurs de la Ligue américaine de hockey.
Ouais. Plusieurs joueurs avec le Jim Le Chalet. On avait des joueurs professionnels au hockey, beaucoup de joueurs à la JMQ. J'ai des joueurs présentement professionnels au baseball aussi.
Amis à toi aussi, là,
ouais,
tu viens du milieu là, à peu près.
Oui, j'en ai qui sont dans les mêmes âges. Donc ça, eux autres, ils ont compris qu'il y avait d'autres choses à apporter que juste l'entraînement. Fait qu'avec eux, je travaille avant qu'ils repartent pour le spring training, qui est au mois de mars. Ouais. Fait que là, on a du temps encore pour...
Là, t'es vraiment dans la saison mode de baseball, là, donc c'est beaucoup des joueurs de baseball que tu dois préparer présentement.
Oui, on a beaucoup, parce que j'ai des joueurs universitaires aussi.
Ouais.
Eux autres, ils repartent, parce que là, la session commence. Donc là, j'ai terminé avec la plupart. Il y en a qui c'était juste des programmes, il y en a qui c'était pour la mobilité aussi. Mais là, les joueurs professionnels, c'est au mois de mars. Puis on a les gars d'hockey pro qui reviennent au gym dans le coin du mois de mai.
Quand leur équipe va être éliminée en série, dans le fond.
C'est ça. Dépendamment de quand ils
s'ils font ou pas.
S'ils veulent prendre un 2-3 semaines de congé aussi, là, doit arriver.
Ça arrive, puis c'est quand même assez intense aussi, sauf que c'est des professionnels. T'sais, eux autres, c'est leur métier. Ils peuvent avoir du temps off aussi, mais ils peuvent pas trop en même temps.
C'est ça.
Il faut gager les affaires. C'est pour ça qu'on fait des entraînements. On est deux à monter ça, moi puis Gabriel Hardy, le propriétaire du gym.
Du gym Le Chalet,
oui. On s'assure que les gars, ils sont en forme. C'est sûr qu'il y a des journées qu'ils nous aiment pas parce qu'on les pousse, mais c'est leur job.
C'est essentiel de se pousser dans la vie d'un athlète. Là.
C'est ça, c'est exactement. T'sais, s'il y avait de l'école encore, après ça, il fallait qu'ils travaillent le soir et puis être actifs, ça aurait peut-être été différent. Mais eux, en ce moment, c'est le matin, on s'entraîne. Après-midi, ils vont peut-être faire d'autres choses pour leur santé.
T'es T'sais, pour connaître certains joueurs de la LHMQ, souvent ce qu'ils font, c'est le matin, c'est dédié 100% à l'entraînement. Donc, ils arrivent à 8h le matin dans le gym, font leur training avec leur entraîneur, sortent de là à 11h, ensuite, petite pause pour le dîner, puis ensuite, s'en vont sur la glace. Ouais. Par exemple, pour les joueurs de hockey, c'est ça, ouais. Ils s'en vont. Ils ont souvent des partenariats. Je sais que le centre d'excellence à hockey offre des bons services, sinon, peut-être d'autres mondes au PEPS ou à n'importe quelle glace, je sais pas. Et ensuite, ben là, prennent leur soirée un peu plus relax. Là. D'autres veulent continuer de faire du sport. Ils font notamment du vélo, jouent au tennis, jouent au soccer.
Le golf est très populaire.
Ouais, le golf c'est également.
Souvent, ça l'arrivait que moi, fallait que je continue ma journée, puis qu'eux autres, après un entraînement, c'était bon, on s'en va à quel terrain, on s'en va jouer. Eux autres, le golf, c'est vraiment, vraiment gros. Là. Fait que, tu sais, ça fait partie justement de leur off-time. Une fois qu'ils ont fait le difficile de la journée, le workout est fait, bon, au moins, ils peuvent aller faire d'autres activités, mais il faut quand même qu'ils fassent attention. Là.
J'ai envie de parler un peu de la communauté qui est en train de te bâtir sur les réseaux sociaux. Tu as à peu près 1200 abonnés là, dans ce coin-là. Mm-hmm. Mais ça, depuis quelques temps, là, tu postes des vidéos, puis comme je mentionnais tantôt, des vidéos vraiment pour d'entraînement, donc pour se préparer à éviter les blessures, se préparer, par exemple, avant un workout, quoi faire si, par exemple, tu as des douleurs au dos, si tu as des douleurs dans les jambes. Qu'est-ce qui t'incite à publier ce genre de vidéos-là, puis c'est quoi ton objectif après ça? Genre, quel objectif souhaites-tu, dans le fond, quel message tu veux un peu transmettre à ton audience?
Vraiment, à quel point que c'est important. Comme que j'ai dit tantôt, je suis passé à travers vraiment plusieurs blessures, puis je veux juste pas que ça arrive au monde. Les connaissances que j'ai présentement, j'aurais vraiment aimé les avoir avant, parce que j'avais personne pour me parler de mobilité, parce que c'est quelque chose qui est un sujet qui est quand même tabou. Il y a du monde qui s'y connaissent moins. Donc là, moi, je veux vraiment maximiser tout ce que je connais, donner ça à tout le monde, puis c'est gratuit aussi. Mm. Donc, tu sais, c'est super simple. Souvent, c'est des choses que c'est plate, mais il faut payer pour ça. Mais ça, des vidéos comme ça, tu l'as.
Ouais.
Tu suis, t'es pas obligé de t'y connaître. Tu vois le mouvement, tu vois qu'est-ce que ça te rapporte. Puis si t'as une douleur à telle place, commence à faire les mouvements, puis ça va aider.
Puis ça fait grandir ta visibilité aussi, ça doit t'apporter plus de clients. Mais si on prend ta carrière en perspective, tu sais, depuis que tu es revenu des États-Unis, des universités américaines, tu t'es lancé là-dedans, puis là, tu dis que tu veux atteindre le top dans ce milieu-là. Pour toi, comment tu l'imagines, le top? À quel point tu vas dire « j'ai tout fait ce que je pouvais faire, j'ai tout atteint mes buts, dans le fond? »
À travailler avec les athlètes au plus haut niveau.
C'est ça, puis t'es déjà bien ancré dans ce milieu-là, en plus, là, fait que t'as déjà un pied de.
Ouais. Un pied d'avance. C'est juste de rajouter le nombre de personnes. En ce moment, oui, j'ai des athlètes professionnels, mais j'en veux toujours plus. Puis tu sais, ça va être quelque chose que ça soit la seule chose que je fais. Maximiser un athlète pour qu'il performe le plus possible. Puis, ouais, c'est vraiment ça.
Ça, j'allais dire, dans le fond, la plupart des grands athlètes, tu sais, au soccer, par exemple, ils ont des coachs privés, puis genre, juste sur le coach à lui seul, dans le fond, l'athlète, puis toi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser éventuellement? Tu as dit que sky's the limit tantôt, peut-être que ça te rejoindrait un peu?
Ouais, ben, c'est sûr que les coachs privés, c'est un petit peu ça qu'on a. Là, moi, j'ai des cours de groupe qui sont là. Je fais du coaching privé aussi, c'est souvent pour la prévention de blessures ou après diagnostic aussi. Mais c'est sûr qu'il y a du privé et ça serait le fun.
Ouais, ça, tu te verrais un peu assez, en tant que.
Ouais.
Tu sais, dans le temps que t'es joueur, t'aurais la chance d'avoir la tête de haut niveau, puis des fois, c'est des grands noms là, aussi. Fait que c'est sûr que ce serait le fun.
Pis c'est pour ça qu'on est plusieurs aussi avec les joueurs professionnels, parce que c'est leur métier. On est 2 à 3 à travailler avec eux. Comme ça, on a toutes nos spécialités. On s'assure que telle personne fait le bon mouvement aussi. Tu sais, ils sont vraiment bien encadrés. Fait que pour eux, c'est vraiment du personnel entre parenthèses. T'sais, c'est pas personnel un à un, mais on est vraiment avec eux à tous les jours, du lundi au vendredi. On s'assure qu'ils font les bonnes choses. Fait que c'est un petit peu du personnel, je dirais, là.
Puis tu proviens du monde du baseball, puis il y a une question qui me brûlait les lèvres. C'est la fameuse opération Tommy John qu'on entend souvent parler au baseball. Tu sais, Shohei Ohtani, le meilleur joueur sur la planète, l'a subi dernièrement. Puis toi aussi, tu l'as subi. J'aimerais ça que tu expliques aux gens qui nous écoutent, c'est quoi ça, l'opération Tommy John, et aussi comment tu l'as vécu, toi?
OK, donc la première année, je l'ai eu. Dans le fond, j'ai eu 3 opérations au coude. La première opération, je l'ai eu en 2017. Je venais juste de revenir des World Baseball Qualifiers avec Team Canada. Puis j'avais lancé beaucoup dans le fall aussi avec mon équipe universitaire. Puis quand je suis revenu, ben c'était la saison de baseball qui recommençait, fait que j'ai pas vraiment eu le temps de donner un shutdown à mon bras. Je l'ai senti pincer. Première game.
À chaque lancé.
Ça pinçait tranquillement, puis à un moment donné, ben ça vraiment, c'est un choc. C'est vraiment, ça lâche, tu l'entends aussi. Pas dans tous les cas, mais dans mon cas, on l'a entendu que ça a lâché. Puis après ça, ben c'est une longue réhabilitation.
Puis c'est au niveau du coude, c'est ça?
Ouais, le coude. C'est le UCL.
OK. Ouais. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais ils ont pris un nerf de ton poignet pour remplacer celui qui était brisé au niveau du coude. C'est en ça que ouais, ça consiste, exact. L'opération?
Ça, ce nerf-là, c'est le pulmonaris. Je le connais juste en anglais, excuse-moi. J'ai fait mes études en anglais. Ils le prennent. Il y a des personnes qui ne l'ont pas, génétiquement. C'est ça. Puis s'ils ne l'ont pas, ils s'en vont le chercher dans ton
mollet.
Genou.
Ah, c'est le genou? Oui.
Ouais. Okay. Là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué dans ce temps-là parce que là, tu as le bras dans l'attelle, mais tu as aussi le genou dans un attelle.
Ah, c'est étonnant, puis c'est pendant plusieurs mois. Ouais, là. Ouais.
Donc là, moi, j'ai été vraiment chanceux pour ça. Je l'ai des deux côtés. Ils me l'ont du côté droit. Puis j'imagine, vous vous dites, mais ça ne l'ôte pas de la force ou peu importe. Non. C'est vraiment, comme qu'on dit, c'est génétique. Il y en a qui ne l'ont pas. Donc, ils l'ôtent. Ils te le mettent dans le coude. Ensuite, ça prend un an avant de revenir à 100% avec les meilleurs spécialistes dans les ligues majeures. Il y en a qui vont revenir de 8 à 9, 10 mois, mais sont avec les meilleurs et sont suivis à tous les jours.
Ouais.
Mais comment ça se passe, la réhabilitation après cette opération-là? Parce que, veux pas, ils t'ont changé un air de place. Là. Ouais. C'est quand même pas mineur comme opération. Mm-hmm. Fait qu'ensuite, tu dois... Le chemin vers le retour au jeu, t'es, comment ça se passe? T'es au repos combien de temps après ça? Mm-hmm. À quel moment dans la réhabilitation tu recommences à travailler ton bras?
C'est très difficile. Le premier mois, t'es dans un plâtre fixe. Ton bras est à 90 degrés dans un attelle. Ça fait très mal, très très mal, parce que là, ton corps, il essaie de comprendre pourquoi t'as un nouveau ligament. Parce que là, tu remplaces un tendon par un ligament. Fait que c'est très différent. Donc, pendant ce temps-là, une fois qu'il y a ton plâtre, là, à partir de là, ton bras, il est pris. T'as 90 degrés, tu peux pas le bouger. Même quand que tu fais de la physiothérapie, quelqu'un te tire sur le bras, il bouge pas. Fait que ça fait partie de la réhabilitation. Pendant plusieurs semaines, faut que tu aies une physio. Elle va te faire tes traitements, elle va te tirer sur le bras, peser pour aller chercher une flexion, de l'extension. Puis c'est très douloureux. C'est quelque chose qui fait plus mal que la blessure en tant que telle, parce que tu le fais très fréquemment. Puis après 6 mois, c'est là que tu peux recommencer. Maintenant, les programmes, comme c'est très varié. On a des spécialistes qui peuvent travailler avec toi. Quand tu as quelqu'un qui te suit, ça peut aller un petit peu plus vite parce que tu vas faire plus d'exercices, tu as un meilleur suivi. Dans mon cas, c'est l'année du COVID.
Oh.
Donc ça a rajouté de quoi d'encore plus difficile. Il fallait que je fasse des fois tout seul parce que les physios à Québec... On pouvait pas aller les voir tout le temps. Parce que là, il y avait des restrictions. Donc là, des fois, j'étais dans ma chambre puis il fallait que je fasse les choses moi-même. Mais revenant sur les lancers, après 6 mois, on peut recommencer. Puis c'est aussi dur mental que physique.
Mais c'est ça, si t'es droitier, ça doit quasiment te donner le goût de devenir gaucher.
Oui, mais c'est très difficile. On peut pas...
Non, c'est impossible. Tu peux pas. Je parle d'expérience.
C'est ça, c'est impossible. Mais c'est surtout le mental game qui est difficile.
Okay.
Parce que là, tu le sais que ça a déjà lâché. Tu te dis, est-ce que ça va relâcher? Est-ce que mon bras est correct? Est-ce que je lance trop fort? Est-ce que je suis en retard sur ma progression? Est-ce que je suis trop d'avance? Fait que c'était quelque chose qui était vraiment difficile, surtout pour ma première fois. Parce que je ne l'ai pas eu juste une fois. J'ai eu plusieurs opérations. La première fois, c'est la plus dure. Parce que
quand tu dis que tu as eu plusieurs opérations, c'est que tu as eu plusieurs fois Tommy John ou tu as eu une fois Tommy John puis ensuite plusieurs autres opérations?
Les ajustements.
Ouais. Dans le fond, après mon opération, j'ai été capable de lancer pendant un an, revenir où est-ce que j'étais, un petit peu meilleur en plus.
Okay.
C'est revenu, la douleur est revenue. Donc là, je suis allé repasser, voir un docteur. Ils m'ont dit que j'avais des fragments d'os un petit peu partout autour de mon coude qui se sont répartis, qui n'ont jamais été capables... mon corps n'a jamais été capable de le guérir. C'est comme un peu, il m'a expliqué, si tu te rentres un écharde dans le doigt, mm-hmm. ton corps, il va essayer de la sortir, il va s'inflammer, c'est pour ça qu'il est sensible. Après ça, il va sortir, tu reviens correct. Dans mon cas, c'était inflammé, mais tu peux pas sortir des morceaux de même.
Ouais, c'est ça.
Tu peux pas sortir, j'avais une petite un screw dans mon coude aussi, des petits morceaux, des fragments qui ont jamais dissous.
Okay.
Mon corps pouvait pas les sortir. Fait que j'avais toujours mal au bras, puis je comprenais pas pourquoi. Donc là, ils m'ont repéré. Puis là, on peut voir ici en studio, j'ai quelques...
Ouais, un peu, quelques marques, un peu partout, là. Ouais.
Donc là, ils m'ont tout retiré. Je suis retourné au jeu, changé d'école. Là, je passais universitaire. J'étais au collège avant. Il a fallu que je me refasse regarder parce que j'avais encore des douleurs.
OK. Mais attends, puis... mettons... T'as eu ta première fois Tommy John, puis après ça, au collège, quand tu dis qu'ils t'ont re-regardé, ouais, est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Ils ont-tu fait une autre opération? Ça a été quoi l'action à ce moment-là?
Dans le fond, c'est exactement ça. Ils m'ont regardé, ils ont refait les tests, parce qu'il y a plusieurs tests physiques avant qu'on passe avec les grosses machines.
Okay.
Il y a plusieurs tests physiques qu'on peut faire. Je testais positif pour chaque. Ils me disaient, écoute, ton ligament, il faut le rechecker.
Okay.
J'ai fait plusieurs places, parce qu'à toutes les places, ils disaient que c'était correct, mais j'avais mal.
Ouais.
Je me suis ramassé avec les meilleurs, Andrews, le créateur de l'opération aussi, puis un qui a aidé.
Wow.
On a eu des zooms, ça s'est ramassé, qui m'ont dit qu'il fallait que je me fasse repérer. Puis là, j'ai 23 ans.
Ouais.
À 23 ans, j'étais en train de terminer mon bac, puis je me dis, il faut que je me refasse repérer pour un an complète, pour une troisième fois. C'est là-dedans que j'étudie. Puis tu sais, quand tu as trois opérations à la même place, tu sais que l'arthrite peut commencer. J'ai 23 à ce temps-là. Tu sais, c'est... Est-ce que tu veux avoir de la misère de lever des choses? C'est le métier que je veux performer. Je me disais, je prends une chance. C'est 50-50. Soit que j'ai de l'arthrite assez jeune, soit que ça récupère bien, puis je peux continuer mon rêve.
Puis tu reviens pleine forme.
Exact. Fait que ça a été une décision qui était brise-cœur, mais il fallait que je pense à mon futur aussi. Là.
Puis... As-tu des regrets sur ta possible carrière? Tu sais, on sait jamais de la mieux du sport, puis ça c'est quand même au niveau universitaire sur les collèges américains, c'est qui est probablement la meilleure place pour jouer au baseball. As-tu peut-être des regrets quand tu y penses?
J'ai eu cette question-là assez fréquemment. Non, j'ai pas de regrets parce que je sais que j'ai tout fait.
Mais en même temps, qu'est-ce que t'aurais pu faire de plus? Genre, t'as été blessé, t'as eu mal, parce que tu t'es fait faire des opérations qui demandent un an de réhabilitation, là. C'est... Mm-hmm.
Mais clairement, dans ton cas, c'est la surutilisation de ton bras qui a causé la blessure. Mais à part le repos, comment tu peux prévenir une opération Tommy John? Il n'y a pas un exercice de stabilité qui peut prévenir ça, à mon avis, là?
Il y en a plusieurs.
Ah oui?
Maintenant, avec la science,
je me trompe.
Guérir, non. Prévention,
non, prévenir, oui, c'est ça.
Il y a beaucoup de génétique là-dedans aussi. Les jeunes commencent à lancer très fort à cause de la technique. Puis, à l'âge qu'ils ont, c'est beaucoup de stress sur un coude.
Puis tu lançais très fort, très jeune, ouais, pour en avoir témoigné.
Je lançais...
J'étais moule catcheur, puis ça rentrait 10 000 à l'heure de plus que tout le monde,
ouais,
à 10-12 ans.
Oui, c'est sûr. Puis c'est sûr que la surutilisation aussi, comme tu le sais, dès qu'on était dans le trouble, je rembarquais, on est jeune, dans ce temps-là, il n'y avait pas de nombre de lancers maximum.
OK.
Je me faisais beaucoup utiliser, oui. Mais c'est vraiment depuis que je suis jeune, j'ai toujours
t'as manqué des choses comme plusieurs ça de nos saisons, là.
Ouais, mais j'ai pas de regrets. Je me le fais souvent demander parce que justement j'ai tout fait pour me dire j'ai tout donné, je sais que même si je peux y retourner, j'aurais pas pu faire plus. Fait que c'est ça qui m'a aidé à comme faire le deuil du baseball. En revenant, je me suis dit je veux m'éloigner du baseball, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur. Puis tu vois, un mois plus tard, je coach déjà le junior élite à Québec au baseball, puis j'entraîne des joueurs de baseball.
Déjà revu dans le milieu.
C'est ça. Fait que tu sais, ça a pas été long. Je voulais m'en éloigner, mais ça fait vraiment partie de moi.
Ouais, ben ça, quand t'es passionné, c'est dur de t'éloigner du sport que t'aimes. Là-dessus, ce que je propose, c'est super intéressant. Ce que je propose, c'est qu'on aille en pause. Après ça, je sais que Oli puis Vincent, vous avez couverture ensemble. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester jusqu'à la fin de l'émission avec Oli. On va poursuivre l'entrevue un peu après la pause, puis ensuite on parlera de l'actualité peut-être vers 20h40-45, tout dépendamment là, de comment l'entrevue va après la pause. Donc sur ça, on va aller en pause à Boisvert Radio. Donc je vous invite à rester à l'écoute. On est de retour dans environ 2 minutes. Et
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Un Mouquet Sit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshim Rud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeosits. Anmukeosits, tous les dimanches à midi sur Cheese 94.3.
Va te parler de nos bières, Jacques.
Il y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière, Éloi.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Cheese. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzellanick en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudon, c'est jeudi de 13h30 à 14h en plus. Ouvre la radio puis monte le son.
Sur les ondes de Cheese, 94.3.
Mes chéris, où sommes-nous?
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chéri J'arrive sur zone de Schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chéri J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
L'art des histoires. Une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussion, analyse, invités, interviews et défis de la semaine.
Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur Cheese 94.3 avec Cédric.
Et moi-même, Louis-David Gingras. Un réel délice.
On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Toujours autour de la table, à ma gauche, Olivier Morin-Larocque. Devant moi, Vincent Michaud. Et à ma droite, Félix Lajoie. On va poursuivre la discussion un peu qu'on avait là, avant la pause avec Olivier. Parce que Olivier, je le rappelle, entraîneur personnel, entraîneur bientôt privé, on l'espère. Et également là, spécialiste en prévention de blessures, en mobilité. Donc, on va poursuivre un peu ce qu'on disait avant la pause. Parce qu'on parlait un peu de ton parcours de baseball. Puis, t'avais quand même un certain potentiel. En sortant de l'école secondaire, t'es allé dans les collèges américains et ensuite t'es allé à l'université. Je me demandais là, comment ça se passe un peu. On sait qu'au hockey, pour aller à l'université américaine, tu dois passer par des showcases puis par certaines écoles. Puis là, tu peux pas jouer dans certaines ligues parce que sinon, tu perds ton éligibilité. Comment ça se passe au niveau du baseball?
On s'en vient vraiment meilleur. Ça, c'est okay. Le premier point que j'ai à dire.
Dans le sens que c'est plus accessible pour, oui. Par exemple, le Québécois qui veut y aller, ouais.
Mm-hmm. Vraiment, vraiment meilleur. Il y avait un programme qui était basé avant aussi, sauf que c'était beaucoup plus difficile d'avoir une visibilité.
Okay.
Maintenant, avec les réseaux sociaux, on sait que c'est beaucoup plus facile.
Ouais.
On va avoir Twitter ou X, qui s'est rendu, qui est très utilisé aux États-Unis aussi. On essaie de les utiliser en tant que coach aussi. Dans mes années à moi, c'est un petit peu plus difficile.
OK.
On commençait à être bon. Ça a super bien été avec moi aussi, mais moi, ce qui a vraiment aidé, c'est surtout l'équipe junior, l'équipe Canada.
L'équipe junior.
L'ABC aussi qui t'a mené à l'équipe junior.
L'ABC, c'est vraiment eux autres qui m'ont amené aussi au niveau plus haut. Maintenant, on a un nouveau directeur qui est là, qui est Marc-Antoine Bérubé. Il fait un très beau travail aussi. Les jeunes sont partout sur les réseaux sociaux. Tout ça au Québec. Leur but, c'est d'aller dans cette équipe-là pour ensuite se faire voir. Puis le programme, c'est des très grosses écoles qui jouent. Mm-hmm. Il y a du monde que leur travail, c'est d'emmener les jeunes aux États-Unis. Puis je pense que des personnes, papa, maman à maison qui jouaient plus jeunes, plus papa avant, mais ouais. Qui ont joué plus jeunes, ils auraient aimé avoir la chance qu'on a maintenant. Il y en a beaucoup qui auraient peut-être pu aller à d'autres niveaux, mais il n'y avait pas la chance des réseaux sociaux, du exposure qu'on parle en ce moment. Là.
Donc, si je comprends bien, maintenant, ce qu'on fait pour promouvoir un peu nos joueurs de baseball, c'est qu'on fait un peu comme on fait au football, je pense, des vidéos un peu fessayants, des vidéos highlight avec les meilleurs moments du joueur. Mmh. Puis après ça, ils mettent ça sur les réseaux sociaux?
Oui. Ben, dans le fond, tu peux faire un peu de tout. Quand tu es un lanceur, on va essayer de faire des vidéos techniques. Donc, tu vas faire une vidéo en avant, en arrière, sur le côté.
Sur ta motion de lancer.
Oui, sur la motion, parce que c'est super important aussi. En tant que coach, c'est pas juste de voir est-ce qu'il lance fort, est-ce qu'il lance des prises. Tu veux voir est-ce qu'il est propice à être bon, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand. Il y a beaucoup de choses à regarder dans les vidéos. Puis, tu as toujours un petit quelque chose à regarder. Ma dernière année, j'ai coaché à l'université en Oklahoma aussi.
OK.
Ma job, c'était le recrutement. J'avais une partie que c'était d'aller voir des jeunes, regarder des vidéos.
Ouais.
C'est vraiment juste avec des vidéos que tu fais ça. Écoute, si Vincent, à ma gauche, en ce moment, il me dit « Hey, Olivier, j'ai un jeune super bon, meilleur joueur dans mon équipe. » Avant, c'était « OK, je te fais confiance, on va le prendre. » Maintenant, okay, tu as la chance de voir...
Envoie-moi
les vidéos. Tu peux voir la technique, à quoi il ressemble, la technique. Est-ce qu'il y a une projection? Il y a vraiment beaucoup de positifs avec ça. Il y a les statistiques, oui, mais il n'y a pas juste ça.
Et toi, personnellement, comment ça a fait, par exemple, l'université américaine qui t'approche? T'es, comment ça s'est passé, le processus? Si eux qui sont entrés en contact avec toi, si toi qui as vu peut-être une possibilité, je sais pas moi, dans un tournoi ou une bourse d'études, comment ça s'est passé de ton côté?
Plusieurs choses en même temps. Donc, quand j'étais avec l'Académie de baseball Canada, ce qui était Équipe Québec en tant que telle,
ouais,
eux autres, ils aident beaucoup. Ils essayaient d'aider le plus qu'ils pouvaient dans mes années. Vont parler à des écoles parce qu'on joue aux États-Unis.
C'est ça, j'allais dire. Ouais, il n'y a pas juste les vidéos que
l'ABC promet. Eux autres, ils ont fait du traveling beaucoup. On va jouer. On joue beaucoup à l'Est. C'est beaucoup plus simple pour le transport.
C'est plus proche. Ouais.
C'est ça. On ne prend pas l'avion tout le temps. T'sais, c'était l'autobus. On voyage, on s'en va là.
Des tournois dans Boston, Maine, New York, il y a des affaires de même.
Ouais, c'est ça. Fait que tu as beaucoup de ça. Puis. C'est plus simple aussi pour un entraîneur de te contacter. Des fois, ça l'arrivait sur le terrain de baseball, un entraîneur ou peu importe, un recruteur, il vient te parler en personne. Donc ça, c'est le numéro un. Tu peux l'avoir en personne, quelqu'un qui vient te parler, tu serres la main. « Hey, good job aujourd'hui,
ouais.
Je te donne mon numéro de téléphone. »
C'est « By the way, je suis recruteur pour telle université, voici ma carte, tu peux me rejoindre. » Genre.
Donc ça, tu avais ça comme option quand tu jouais aux États-Unis.
OK.
Quand tu es au Québec, tu n'as pas cette option-là parce que tu
n'as pas un coach
qui te regarde. Ça peut arriver. Exemple, tu es un joueur exceptionnel, ils payent un billet d'avion pour venir te voir ou peu importe. Ouais. Ou plus les recruteurs professionnels, qu'eux autres, leur job, c'est de se déplacer aussi.
Mm-hmm.
Quand tu arrives universitaire, ils ont moins le temps un peu de se déplacer. Donc, tu peux avoir les vidéos au Québec. Maintenant, on a ça. Ça, c'est soit l'entraîneur, comme qu'on parlait, directeur ou bien des associés du directeur avec l'Académie de baseball Canada qui vont contacter des écoles, puis qu'après, l'ABC va te contacter pour te dire « Hey, on a telle école qui t'a,
okay,
qui s'informe, c'est ça qui t'approche. » Fait que tu peux en avoir en dehors de ça, puis avec le programme aussi.
OK. Personnellement, je suis pas au courant de tous les parcours là, d'Abraham Thoreau, de Charles Leblanc ou de Édouard Julien qui sont montés dans la MLB. Mais selon toi, est-ce que ça pourrait arriver éventuellement qu'un joueur qui soit développé complètement au Québec et qui ne passe pas par les universités américaines puisse se faire repêcher un jour?
C'est une excellente question. Je pense que ça va être très difficile.
OK.
Parce que si tu veux le jeune pour aller dans les ligues majeures, il n'y aura pas le choix d'affronter du compétitif.
Okay.
Même s'il reste au Québec, puis affronte les meilleurs Québécois, il y a 370 millions d'habitants aux États-Unis.
Ouais.
On est 36 millions au Canada. Il y en a beaucoup dans le monde qui sont bons ailleurs.
Ouais.
Il faut que tu affrontes le plus dur. La Ligue majeure, c'est les meilleurs joueurs au monde. Si tu restes au Québec, puis tu joues contre les meilleurs joueurs au Québec, d'après moi, ça va être difficile de percer. Il faut aller jouer où est-ce que les joueurs sont meilleurs. Surtout... aux États-Unis, le baseball, c'est très gros.
Ouais.
Fait que tu veux jouer contre la meilleure compétition, à mon avis. Peut-être que j'ai pas raison, mais c'est vraiment...
Pour l'instant, c'est impossible.
Là.
C'est ça. C'est...
Ouais. Ben, t'sais, comme par exemple, au football, Laurent Duvernay-Tardif se fait repêcher en jouant pour les Redmen de McGill. Ouais,
la Ligue universitaire,
c'est pas pareil.
Elle est plus bonne
que j'ignorais ici au baseball.
Il y a une nouvelle Ligue universitaire, mais il y a quoi, avec 4-5 clubs?
Ah, ça,
L'équipe veut juste avoir une équipe, mais c'est pas, c'est pas exceptionnel. Il y a pas toutes les universités qui font partie de la Ligue, comme mettons au football où t'as McGill, Concordia, Laval, puis tout le monde joue.
Puis c'est quand même des universités qui sont quand même un peu reconnues parmi les équipes de la NFL, là, alors que t'es, comme on disait au baseball, c'est complètement nouveau.
C'est vraiment à l'extérieur aussi. Si on regarde l'Université Laval, t'as pas baseball.
Ouais, ça, il n'y a pas de baseball à l'Université Laval.
St. Lawrence, tu vas avoir des étudiants. On a des étudiants au collégial parce que je coach des joueurs collégiales puis universitaires aussi à Québec.
Okay.
Tu vas en avoir, mais c'est pas avec l'école. Eux autres, ils sont séparés. On les entraîne en dehors, mais c'est ça.
Ils s'entraînent avec l'ABC, puis...
Ben oui, puis non, il y en a qui sont pas avec nécessairement avec l'ABC. Il y en a qui vont jouer junior élite, il y en a qui vont jouer junior 2A, il y en a qui vont passer senior, mais eux autres vont plus être avec les canonniers. Dans le fond, c'est les canonniers qui s'en occupent de ça. Ouais. Là. C'est le programme sport-études secondaire 1 à 5, puis tu vas avoir aussi cégep, université, pour ceux qui sont là.
Mais si on revient à ton parcours personnel, t'as fait plusieurs collèges américains, t'es allé à l'université par la suite. À quel point tu t'es approché du baseball majeur dans ton parcours de baseball?
Y a-t-il déjà un recruteur qui est venu te poser des questions? Hein?
Oui, oui. Assez fréquemment. Ça l'arrivait beaucoup quand j'étais jeune, parce que Vincent l'a dit, quand j'étais jeune, j'étais quand même assez talentueux, j'étais une bonne pièce. Y a beaucoup d'avantages là-dessus. C'est beaucoup plus en personne. Tu vas avoir la chance de parler à quelqu'un qui, justement, il va venir te serrer la main, il va dire hey, good job, je travaille pour les Blue Jays.
Ouais.
Fait que là, la première fois, c'est là que le cœur il fait comme wow. OK. Genre là, on n'est plus dans la cour arrière. Là.
Ouais.
Fait que le premier coup, j'ai parlé avec quelques équipes, pas une en particulier. À 17 ans, j'ai eu des offres. J'ai pas nécessairement accepté. C'était surtout du parlage. Je dirais pas que j'ai sorti, j'ai dit non, peu importe. C'était beaucoup de OK, on t'a en vue, on veut te voir performer parce que eux autres aussi, ils savaient que j'étais propice à blessure.
OK, ouais,
ils savaient. Ils voulaient quand même regarder parce que quand j'étais en santé,
t'étais le meilleur.
J'étais bon. Fait que c'était quelque chose qui était encore très difficile dans le mental parce que je savais que je pouvais aller jouer à un niveau. Beaucoup de personnes savaient que je pouvais jouer à un haut niveau, mais je pouvais jamais le montrer sur plusieurs années. Le plus long que j'ai fait, je vous dirais que c'est peut-être un an. Fait que c'est difficile qu'à chaque année, ils sont comme « Hey, comment ça va? On voit que t'as fait ça, ton bras va bien. » C'est difficile de mentir.
Ouais, ben c'est ça. T'as pas le choix de dire.
Puis par la suite, ben l'équipe va juste le savoir là, quand on fait.
Non, c'est ça.
Avant de te signer, ils font une petite visite médicale et tout, puis ils regardent, puis dès que t'as une petite blessure, ils savent. Là.
Mais tu sais, ils savaient mes premières années. Tommy John, c'est une opération, comme tu dis, le meilleur joueur au baseball au monde.
Ouais.
Il l'a. Tout le monde, tous les lanceurs l'ont. C'est quelque chose que les docteurs sont spécialisés maintenant. Avant, c'était une opération qui était 50-50. Une chance sur deux que tu te réveilles et qu'ils te disent on sait pas ça a marché.
T'as plus de bras.
C'est sûr que ça, il va être là. Mais bon, c'est
pas si
maintenant, c'est vraiment safe. Il y a beaucoup de jeunes ou vieux qui vont venir plus fort aussi. Puis ça, c'est un autre sujet que j'aimerais parler aussi parce que ça veut
On
pas
a encore
dire...
15 minutes, let's go.
C'est pas. Tu vas entendre souvent ah oui, t'as eu l'opération, fait que tu devais lancer plus fort après.
Ouais, c'est un mythe, ça.
Ça, c'est un très gros mythe. Si quelqu'un fait.
Il t'a dit tantôt que t'es revenu un peu plus fort après.
Ça a été son cas.
C'est parce que tu t'es comme plus développé ou c'est directement causé par l'opération?
Dans le fond, là, c'est le processus. L'opération, tu rajoutes un ligament, c'est pas. Tu rajoutes pas de la fibre rapide, tu rajoutes pas rien à ton corps.
Ouais.
C'est juste tellement beaucoup de réhabilitation que tu vas pas faire si t'es pas blessé.
OK, exemple fait, tu que travailles toi, un t'es... peu tu travailles les autres muscles que tu travailles quand tu lances, puis dans la réhabilitation, ces muscles-là deviennent plus forts, donc c'est comme ça que tu progresses un peu.
Comme un peu Connor Bedard au hockey.
C'est quoi le
lien? Quand il s'est cassé le poignet, puis les... j'atteigne la gauche parce que c'était peut-être le poignet droit, puis là, il est rendu...
Fait qu'il est rendu ambidex.
Oh, ben c'est rendu qu'il a mis un chat de la ligue.
Il s'est cassé à mâchoire à cette heure, qu'est-ce qui va arriver? Là?
Ah là, ça, je sais pas, bonne question.
Il va avoir une meilleure bouche pour trash talk.
Ouais, sûrement, sûrement.
Mais ouais, sur le sujet.
Revenons à nos boutons.
Ouais, dans le fond, c'est surtout le programme, les exercices que tu as à faire, une personne qui va pas être blessée va pas suivre un programme de réhabilitation. Ouais. Quand tu suis un programme de réhabilitation, c'est du extra work. T'en fais. Veux pas, ton bras devient plus fort. Tu reviens, tu lances plus fort. Si tu as tout fait puis que ça a bien marché, ça se peut que tu lances pas plus fort. Mais avec tous les exercices que tu te fais donner, tu mets les chances de ton côté. Si tu mets quelqu'un qui n'a pas eu la blessure, qui n'a pas besoin de se faire opérer, tu lui donnes le programme que quelqu'un qui a besoin de l'opération, c'est sûr que ça va marcher pour lui aussi. Ça se peut que non. Des fois, ça dépend génétique, technique. Mais si tu suis un programme de réhabilitation, comme le Tommy John, tu vas lancer plus fort.
OK.
OK, puis là, je veux pas apporter de mythes. Comme que je dis, ça se peut que tu lances pas plus fort. Tu sais, il y en a qui reviennent du Tommy John qui lancent pas plus fort. Mais tu mets les chances de ton côté si tu fais tout le extra work que quelqu'un qui a besoin de faire quand il est blessé.
Attends. Je suis pas sûr de t'avoir suivi. Tu dis que si quelqu'un qui n'a pas subi l'opération fait les exercices mm-hmm. de quelqu'un qui les a subis... Mm-hmm. peut avoir les mêmes résultats, mettons, que quelqu'un qui l'a subi.
Mais oui, parce que c'est sur le travail du muscle. Mais
pourquoi tout le monde ne le fait pas, d'abord?
Ça doit être long.
Manque de motivation, ouais. Je sais pas.
Ben ouais, mais si t'es un athlète professionnel, j'imagine que t'es un lanceur, un releveur qui a besoin de cette coche de plus-là mm-hmm. pour atteindre la ligne majeure, c'est sûr que c'est envisageable.
Les meilleurs le font.
C'est ça, j'imagine.
C'est exactement ça, les meilleurs le font. Ils vont faire tout le extra work. Je parle pas nécessairement du programme du Tommy John, mais ils vont faire tout l'heure possible pour renforcer leurs bras. Si tu fais pas ça, tu vas pas devenir lancé plus fort. Puis c'est quelque chose qui est vraiment tabou aussi aux États-Unis parce que, comme vous savez, j'ai vu plusieurs docteurs. Puis c'est déjà arrivé, il me le dit, là, qu'il y a des jeunes qui vont aller là. Puis c'est comme, oui, je veux l'opération. Puis le docteur est comme,
non, t'en as pas besoin.
Il est correct. Là, pourquoi, genre, tu veux l'opération? Puis c'est souvent, le sport, c'est gros aux États-Unis.
Ouais.
Les parents, souvent, veulent plus que le jeune.
Ah, c'est ça.
Ça arrive tout le temps, mais faut-tu être fou pour avoir demandé l'opération quand tu l'as pas?
Oui, j'en ai entendu des histoires aussi. Le sport, c'est quasiment une mise, là. Tu sais, le monde, il y a des parents qui essaient.
C'est une religion,
doit percer, là.
Oui, si le jeune, il perd, c'est pour ça qu'ils sont contents.
C'est ça.
Il y a le jeune, il rapporte.
Fait que, tu sais, c'est triste à dire, puis le docteur trouve ça vraiment triste aussi. Tu sais, on n'opérera pas quelque chose qui est déjà correct. Tu vas pas lancer plus fort après l'opération. Tu vas même empirer tes chances de peut-être te reblesser. Tu peux pas ramener ton corps plus fort après l'opération. Tu sais, t'es ouvert ton corps, garde ton corps en santé. S'il faut que ça arrive, vas le faire.
C'est terrible, là. Ça me fait penser à toutes les histoires de parents qui payent des camps de hockey pour leurs enfants alors qu'eux autres en veulent pas nécessairement. Puis là, ils compromettent la santé de leurs jeunes mm-hmm. pour une opération qui supposément va te rendre plus fort. Mm. Wow. Je pensais pas que ça allait jusque-là.
Là, c'est terrible.
Pas d'allure. Donc, Vincent, Félix, avez-vous d'autres questions peut-être? Parce que sinon, il reste un 10 minutes que je parlerai un peu de NFL.
On aurait pu avoir un bon joueur de MLB qui vient de chez nous. un autre Québécois.
Ben, on en a un en ce moment. C'est ça le positif. C'est sûr que j'aurais aimé ça, mais comme j'expliquais tantôt, j'ai tout donné.
Les blessures, tu peux jamais savoir avec ça si t'aimais ça.
Ouais, exactement. C'est pour ça qu'en ce moment, mon travail, je fais tout pour pas que ça arrive à d'autres athlètes. Là.
Mais ça, aujourd'hui, comment il va ton bras?
Il va bien. C'est sûr qu'après des opérations comme ça, la température, tu peux le sentir.
Ça se
peut qu'il soit un petit peu plus raide. Il faut que je le warm up un petit peu plus quand je vais faire des exercices. Il va super bien, mais c'est juste ça qui est pas à 100%. C'est normal. T'sais. J'ai beaucoup d'opérations.
Ouais.
Fait que d'après moi, une de plus, ça aurait été très difficile.
Mais ça émet beaucoup de blessures de lancer fort, mais faut penser aussi au receveur des fois, hein, parce que là, moi, j'étais le receveur, puis le nombre de pouces qui m'a foulé, là. Ouais,
ça arrive très souvent,
a peut-être coupé ma carrière MLB, moi aussi.
Ouais.
Surtout les genoux chez les receveurs, puis ça, aussi, c'est très important, encore une fois, c'est de la mobilité. T'es toujours dans une position que si tes genoux sont pas assez forts, tes muscles sont pas assez forts autour, stabilisateur.
Tu feras pas long feu.
Les opérations embarquent pour les genoux. Fait que c'est différent pour les catchers. C'est moins le bras, c'est souvent les genoux, hanches. Chaque position a quelque chose de différent. Là.
Mais c'est les deux pires en même temps au baseball, là, vraiment. Parce que le fait de lancer, c'est tellement pas un mouvement naturel pour le corps à la base. Là.
Vraiment pas naturel, non.
Mais ça, genre. Oui, mettons, moi je lance une balle ou n'importe quoi, mais c'est sûr que comme tes entraîneurs au fil du temps t'ont appris comme une technique, mm-hmm. puis là tu dois comme bouger ton bras d'une certaine manière, puis tu sais, ça doit pas nécessairement être, comme tu le disais, Vincent, ça doit pas nécessairement être naturel pour le corps humain de monsieur, madame, tout le monde.
Mm-hmm. Ouais, même si t'as la meilleure technique au monde, c'est pas naturel.
C'est ça.
Mm-hmm. C'est peu importe.
C'est la répétition aussi, là.
Ouais, c'est ça. Tu lances. C'est souvent les conditions. C'est comme moi.
Le froid.
Des fois, tu lances au Québec, ça arrive, un petit peu plus froid. Ouais. Si tu fais pas tes échauffements, qu'est-ce qui se passe? Ton sang circule moins, ton corps est pas prêt à avoir un impact. Puis c'est des gros impacts, là. On parle pas d'un jogging 50% tout le long. On parle d'une rotation, d'un mouvement directionnel à 115%, là. Ouais. Fait que si ton corps est pas prêt puis il fait froid, clac, ça fait des gros impacts, là. Puis c'est de même qu'on crée de l'inflammation, puis c'est comme, je commence à être raqué. Fait que ça vient vite, là.
Puis je viens de penser à ça, une des nouveautés qu'on a vues dans le baseball majeur dernièrement, c'est le fameux clock timer, là, le timer pour, dans le fond, entre chaque lancer, puis passer ce temps-là, ben là, t'as comme, une pénalité, ça prend trop de temps.
T'as une balle.
Ouais, c'est une balle. Est-ce que tu penses que ce genre de mesure-là pourrait aggraver les lanceurs? Parce que, tu sais, veux pas, t'as une rotation tellement rapide à des intervalles très très courts. Mm-hmm. Penses-tu que ça, dans le futur, on va voir un effet de ça, genre d'une augmentation encore plus du nombre de blessures puis de la nécessité d'une opération Tommy John?
C'est sûr que c'est un très bon point. On parle que ton temps de repos après ton effort est beaucoup plus court. Par exemple, ton effort, si tu le fais plus court, tu vas peut-être être capable de le garder. Garder tes muscles chauds plus longtemps. T'sais, si tu prends des gros écarts, ça peut être long. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Il y a la température, mais une fois que tu as terminé ta manche, faut que tu retournes sur le banc. Tu bouges plus. Là.
Ah, c'est vrai.
Tu as le cool down, ton sang redescend, ton cœur, tes battements ils descendent. Là, faut que tu retournes lancer à 100%. Il y en a qui font ça pendant 9 manches là, aussi. Là.
Ah, oui.
Fait que c'est ça qui est difficile. Mais pour le côté physique, je pense pas que ça va changer tant que ça dans les ligues majeures. Côté mental, ça l'a changé beaucoup de personnes.
Okay.
Mais c'est super bon pour la télévision aussi, par exemple. Mais il y a beaucoup de joueurs, de lanceurs, que ça n'a pas fonctionné pour eux. Là.
Ben, un à qui je pense que ça n'a pas fait, c'est Alek Manoah avec les Blue Jays.
Ouais, exactement, c'est à lui que je pensais aussi.
C'est ça.
C'est lui, ça a vraiment pas marché. Même quand il avait le temps, il dépassait. On le sentait qu'il était pressé.
À bout de souffle.
Exact. T'sais, il est passé de meilleur lanceur dans la ligue à se chercher
relégué en tant que...
dans le camp des recrues, quasiment.
C'est ça. Donc, lui, ça l'a paru. Là.
Hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine pour lui, là, parce que les Blue Jays vont lui donner une deuxième chance. J'imagine. Je peux pas croire. Je sais pas ce que t'en penses.
Je sais pas quoi dire, honnêtement. Moi, les Blue Jays, j'attends juste un gros nom qui signe, parce qu'en ce moment, je trouve que c'est assez tranquille, là, mais.
Ouais. Shohei Ohtani, hein, ça aurait-tu été le fun?
Ouais, ça aurait vraiment été le fun avec les fausses rumeurs qu'on a eues en plus, ces réseaux sociaux, là. Mais je suis sûr qu'ils vont trouver quelqu'un puis essayer de sortir avec une bonne année, là.
Y a-tu des joueurs qui, si mettons, t'étais dans le bureau, tu ciblerais?
Ben là, présentement, ils parlaient un petit peu de Cody Bellinger.
OK, ah, ça serait bon.
Ça pourrait être bon pour les Blue Jays aussi. C'est sûr qu'il va rapporter en plus de la visibilité parce que le monde, ils savent c'est qui.
Ben oui.
Fait que je pense qu'il y a beaucoup de points positifs, sauf que le point négatif, c'est qu'il vaut cher.
Ouais.
Mais il y a aussi le fait que c'est un coup de dé, là. Il n'est pas très peu constant dans ses performances, lui-là. Là.
Mm-hmm.
À suivre.
Excellent. Donc, il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, on va conclure toute l'émission, puis je te remercie plus précisément tantôt. Donc, je voulais qu'on parle rapidement là, de NFL avant la fin de l'émission. Juste mentionner là, qu'il y avait un match ce soir dans la LPHF à la Place Belle et Montréal a gagné 3-2 contre New York. Donc, première victoire à domicile pour l'équipe de Montréal. Je te regarde, Félix, parce que je sais
ça
que...
Ça sent la coupe.
non, mais pas de logo, pas de nom. Je connais ton opinion là-dessus. Là, non, c'est assez ridicule.
Non, moi, je trouve ça ridicule, mais en même temps, si on en met plus tard, c'est bien correct, mais je pense que tant qu'il y a créé une ligue professionnelle qui est déjà de base, il y a 6 équipes, dont 5 sont dans le même fuseau horaire, mets-leur un nom, mets-leur un logo, je sais pas, là, tu sais, ça aurait pu être les Canadiens de Montréal, ça aurait été bien correct, mais là... Ça va prendre des progrès dans les prochaines années.
Samedi, c'était Montréal-Boston, mais on était loin de la rivalité qu'on aurait pu.
Ben, ouais, c'est ça. Tu sais, t'as une ligue professionnelle avec 6 équipes. Je pense qu'il y a bien plus d'autres joueurs qui auraient pu jouer dans cette ligue-là. Tu sais, je veux dire, tu peux en mettre 10, faire deux divisions de 5, puis déjà là, c'est un plus grosse tête, mais je pense que c'est la première année aussi, il faut leur donner du temps, là, puis je suis pas un hater de ces ligues-là, parce que justement, je vais aller voir les matchs et tout. Mais ouais, ça commence pas très, très bien.
Mais à la base, la stratégie derrière ça, c'est de laisser une année aux équipes pour se bâtir une identité. Je pense que ce qui est en train de se faire, tu sais, juste aujourd'hui, on a eu un petit événement inhabituel. Je sais pas si vous avez vu le clip. Marie-Philippe Poulin s'est chamoyé, si on peut dire, un petit peu avec une joueuse de centre de l'autre équipe. Fait que déjà là, tu sais, ça rapproche les partisans, je trouve, d'avoir des événements, tu sais, pour se remémorer puis se dire, OK, c'est à tel nom d'équipe qu'on s'identifie, tout simplement.
Ouais, mais c'est vrai que, t'es sans avoir joué de match, c'est dur de connaître ton identité d'équipe là. C'est sûr que bon, un président, directeur général, coach peuvent arriver avec leur idée d'identité, mais
si ça rejoint pas tout le monde, ça sert à rien.
Ça faut un nom qui va représenter les partisans, puis là les partisans finalement sont au rendez-vous. Fait que t'es comme Félix disait là, ça fait juste commencer, puis dans le futur ça promet là. Dans le fond, cette ligue-là a vraiment un bel avenir.
Mais t'sais, la seule équipe qui est prête dans le fuseau horaire de l'Est, c'est Minnesota, puis ben en tout cas vous avez compris là. Puis c'est l'équipe que justement Minnesota, ils recrutent plein de joueurs qui viennent de la région, tu sais, qui ont joué universitaire à Minnesota, puis c'est comme c'est l'équipe où c'est que tu peux t'identifier à cette équipe-là, parce que c'est toutes des filles du coin, tu sais, ici à Montréal, il y a pas vraiment de Québécoises dans l'équipe, tu sais, Poulain et André Desbiens, mais je pense que les autres, ils ont quand même bien fait ça, le rajoute-leur un nom et tout, puis au pire affilier-les à l'équipe de la Ligue nationale, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Tu sais, le Wild de son équipe de gars, son équipe de filles aussi, ça se fait en Europe au soccer. Je pense que ça pourrait se faire aussi dans la NHL, puis dans la PWHL.
Exact. Donc, affaire à suivre. Puis rapidement, là, bon, on a eu plusieurs duels en fin de semaine pour ce qui est de la NFL. On doit bientôt aller en pause publicitaire, puis dans le fond, conclure l'émission. Fait que ce que je vais vous faire, les gars, c'est que je vais vous mentionner chaque prochain duel, dans le fond, qu'on va avoir en fin de semaine prochaine. Vous me dites juste le nom du vainqueur que vous pensez.
Alright.
Puis, mettons, Oli, toi, ça te tente-tu de participer aussi? Tu te connais-tu un peu en NFL?
J'ai commencé à suivre ça cette année.
OK.
Donc,
Je t'inclus là-dedans. Ouais, c'est bon? Texans, Ravens, qui gagne?
Ravens.
Texans.
Ravens.
Pour moi, j'y vais avec les Ravens.
CJ Stroud, même.
J'ai hâte. On en reparlera après l'émission, mon cher Vince.
CJ Stroud.
Après ça, Packers, 49ers.
Niners,
oui.
Packers, je pense.
Ouais, moi j'allais avec les Niners, mais ouais, pour vrai c'est intéressant parce que
trois victoires de suite, puis les Niners, ça fait un bout qu'ils n'ont pas joué. Purdy aussi, le upset, il pourrait être là.
Jordan Love a été surprenant au premier match.
Ben
aussi.
C'est ça, il a amené son équipe en série, puis après ça il a complètement il s'est amusé avec la défense.
Ça, c'est
des
un match sur les Niners, on les éclate.
Après ça, Buccaneers, Lions.
Lions.
Buccaneers, Matthew Stafford est sonné là, je sais pas si vous avez vu ça.
Lions.
Matthew Stafford
c'est... Il était avec les Lions.
Mais là, c'est Jared Goff, le corps des
Lions. Ah, je suis mêlé d'abord.
Ouais, c'est ça.
Je pensais aux Rams.
Stafford, c'est
les Rams.
Qui ont affronté.
Ouais, moi, je vais aller avec les Lions aussi. Là. J'aime bien, après une première victoire éliminatoire en plus quoi de 20 ans.
Ouais, Eminem, il est
pourquoi,
là.
Pourquoi pas une deuxième? Et finalement, Chiefs Bills. Ça va être un excellent duel.
Ça, c'est dur à dire.
Je vais y aller avec les Bills pour tous les fans qu'on a au Québec aussi, en plus des Bills.
Moi aussi, les Bills, c'est leur chance. Puis même si Mahomes n'est pas sous-estimé, on espère qu'ils vont être les Bills pour une fois.
Ouais, les Bills, les Chiefs, on a besoin, c'était un site.
J'ai vraiment été impressionné de la performance des Bills hier, là, donc je vais aller avec les Bills également. Donc contre toute attente, le seul match qu'on est unanime, c'est celui Bills-Chiefs, alors que c'est à mon avis un qui pourrait être le plus serré.
Controverse.
Donc, on va voir ça. Dans le fond, il y a deux matchs samedi, deux matchs dimanche. J'ai vraiment hâte de suivre ça parce que le Super Bowl s'en vient, veut pas, puis ça va être très intéressant de suivre ça. Donc, on va conclure l'émission. D'abord, Olivier, veux-tu plugger un peu tes réseaux sociaux où on peut te suivre?
Ouais, je suis surtout sur Instagram en ce moment, sur Olivier Morin Larocque, en un mot. Vous allez voir mon content que je pose là-dessus. Je pense que tout le monde devrait regarder. C'est des mouvements très importants aussi à regarder, puis c'est gratuit. Donc, allez voir ça si vous pouvez.
Excellent. Merci beaucoup, Olivier, de ta présence lors de l'émission de ce soir. Super apprécié.
Avec plaisir.
Vincent, Félix, toujours un plaisir de faire des émissions de radio avec vous autres. On se reparle bientôt.
À plus, Charles.
Bonne soirée, tout le monde.
Donc, merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir de Boisvert Radio. Pour ce qui est de la rediffusion, là, ça devrait être en ligne le jeudi ou vendredi. Donc, suivez notre page Facebook pour être au courant de tout ça. Je vous invite également à nous suivre sur Instagram, Spotify et Apple Podcasts parce que, ben, toutes les informations de Boisvert Radio vont se ramasser sur ces plateformes ensuite. Donc, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.